Du roi, ayant fait le tour du chœur, descendit la nef de gauche. Il arrivait au milieu quand il rencontra le gros monsieur chauve, allant toujours de son pas tranquille, et il se demanda « Qu'est-ce que ce particulier-là peut bien faire ici ?» Le promeneur aussi avait ralenti sa marche et regardait Georges avec un désir visible de lui parler. Quand il fut tout près, il le salua et très poliment « Je vous demande pardon, monsieur, de vous déranger, mais pourriez-vous me dire à quelle époque a été construit ce monument ?» Du roi répondit « Ma foi, je n'en sais trop rien. Je pense qu'il y a 20 ans ou 25 ans, c'est d'ailleurs la première fois que j'y entre. Oh, moi aussi, je ne l'avais jamais vu. » Alors le journaliste, qu'un intérêt gagnait, reprit « Il me semble que vous le visitez avec grand soin. Vous l'étudiez dans ses détails. » L'autre, avec résignation « Je ne le visite pas, monsieur. J'attends ma femme qui m'a donné rendez-vous ici et qui est fort en retard. » Puis il se tut, et après quelques secondes, il fait rudement chaud dehors. Du roi le considérait, lui trouvant une bonne tête, et tout à coup, il s'imagina qu'il ressemblait à Forestier. « Vous êtes de la province ? » dit-il.
« Oui, je suis de Rennes. Et vous, monsieur, c'est par curiosité que vous êtes entré dans cette église ?»
Non, j'attends une femme, moi. Et l'ayant salué, le journaliste s'éloigna, le sourire aux lèvres. En approchant de la grande porte, il revit la pauvresse, toujours à genoux et priant toujours. Il pensa, Christy, elle a l'invocation tenace. Il n'était plus ému, il ne la plaignait plus. Il passa et, doucement, se mit à remonter la nef de droite pour retrouver Madame Walter. Il guettait de loin la place où il l'avait laissée. S'étonnant de ne pas l'apercevoir, il crut s'être trompé de pilier, alla jusqu'au dernier et revint ensuite. Elle était donc partie. Il demeurait surpris et furieux. Puis il s'imagina qu'elle le cherchait et il refit le tour de l'église. Ne l'ayant point trouvée, il retourna s'asseoir sur la chaise qu'elle avait occupée, espérant qu'elle l'y rejoindrait. Et il attendit. Bientôt, un léger murmure de voix éveilla son attention. Il n'avait vu personne dans ce coin de l'église. D'où venait donc ce chuchotement ? Il se leva pour chercher et il aperçut, dans la chapelle voisine, les portes du confessionnal. Un bout de robe sortait de l'une et traînait sur le pavé. Il s'approcha pour examiner la femme, il la reconnut, elle se confessait. Il sentit un désir violent de la prendre par les épaules et de l'arracher de cette boîte. Puis il pensa « Bah, c'est le tour du curé, ce sera le mien demain. » Et il s'assit tranquillement en face des guichets de la pénitence, attendant son heure et ricanant à présent de l'aventure. Il attendit longtemps. Enfin, Madame Walter se releva, se retourna, le vit et vint à lui. Elle avait un visage froid et sévère. « Monsieur, dit-elle, je vous prie de ne pas m'accompagner, de ne pas me suivre, de ne plus venir seule chez moi, vous ne serez point reçu. Adieu. » Et elle s'en alla d'une démarche digne. Il la laissa s'éloigner car il avait pour principe de ne jamais forcer les événements. Puis, comme le prêtre, un peu troublé, sortait à son tour de son réduit, il marcha droit à lui en le regardant au fond des yeux et lui grogna dans le nez « Si vous ne portiez point une jupe, vous, quelle paire de soufflets sur votre vilain museau !» Puis il pivota sur ses talons et sortit de l'église en sifflotant. Debout sous le portail, le gros monsieur, le chapeau sur la tête et les mains derrière le dos, las d'attendre, parcourait du regard la vaste place et toutes les rues qui s'y rejoignent. Quand du roi passa près de lui, ils se saluèrent. Le journaliste, se trouvant libre, descendit à la vie française. Dès l'entrée, il vit à la mine affairée des garçons qu'il se passait des choses anormales. Et il entra brusquement dans le cabinet du directeur. Le père Walter, debout, nerveux, dictait un article par phrase hachée, donnait entre deux alinéas des missions à ses reporters qui l'entouraient, faisait des recommandations à Boisrenard et décachetait des lettres. Quand du roi entra, le patron poussa un cri de joie. « Ah, oh, quelle chance ! Voilà Bellamy !» Il s'arrêta net, un peu confus, et s'excusa.
« Je vous demande pardon de vous avoir appelé ainsi. Je suis très troublé par les circonstances. Et puis, j'entends ma femme et mes filles vous nommer Bellamy du matin au soir. Et je finis par en prendre moi-même l'habitude. Vous ne m'en voulez pas ?»
Georges riait. « Pas du tout. Ce surnom n'a rien qui me déplaise. »
Le père Walter reprit. « Très bien. Alors je vous baptise, Bellamy, comme tout le monde. Eh bien, voilà. Nous avons de gros événements. Le ministère est tombé sur un vote de 310 voix contre 102. Nos vacances sont encore remises au calende grec, et nous voici au 28 juillet. L'Espagne se fâche pour le Maroc, c'est ce qui a jeté bas Durand de l'Aisne et ses acolytes. Nous sommes dans le pétrin jusqu'au cou. Marot est chargé de former un nouveau cabinet, il prend le général Boutin d'Acre à la guerre, et notre ami Laroche-Mathieu aux affaires étrangères. Il garde lui-même le portefeuille de l'intérieur avec la présidence du conseil. Nous allons devenir une feuille officieuse. Je fais l'article de tête, une simple déclaration de principe en traçant leur voix au ministre. »
Le bonhomme sourit et reprit « La voie qu'il compte suivre, bien entendu. Mais il me faudrait quelque chose d'intéressant sur la question du Maroc. Une actualité, une chronique à effet, à sensation, je ne sais quoi. Trouvez-moi ça, vous. »
Duroy réfléchit une seconde, puis répondit « J'ai votre affaire. Je vous donne une étude sur la situation politique de toute notre colonie africaine avec la Tunisie à gauche, l'Algérie au milieu et le Maroc à droite. L'histoire des races qui peuplent ce grand territoire et le récit d'une excursion sur la frontière marocaine jusqu'à la grande oasis de Figig où aucun Européen n'a pénétré et qui est la cause du conflit actuel. Ça vous va-t-il ? »
Le père Walter s'écria « Admirable ! Et quel titre ?»«
De Tunis à Tanger. »«
Superbe !»
Et Duroy s'en alla, fouiller dans la collection de la Vie française pour retrouver son premier article, Les Mémoires d'un chasseur d'Afrique, qui, débaptisé, retapé et modifié, ferait admirablement l'affaire d'un bout à l'autre, puisqu'il y était question de politique coloniale, de la population algérienne et d'une excursion dans la province d'Oran. En 3 quarts d'heure, la chose fut refaite, rafistolée, mise au point, avec une saveur d'actualité et des louanges pour le nouveau cabinet. Le directeur, ayant lu l'article, déclara
« C'est parfait ! Parfait ! Parfait ! Vous êtes un homme précieux, tous mes compliments !»
Et Duroy rentra dîner, enchanté de sa journée, malgré l'échec de la Trinité, car il sentait bien la partie gagnée. Sa femme, fiévreuse, l'attendait. Elle s'écria en le voyant « Tu sais que Laroche est ministre des Affaires étrangères ?»« Oui, je viens même de faire un article sur l'Algérie à ce sujet. » « Quoi donc ?» Tu le connais, le premier que nous ayons écrit ensemble, Les Mémoires d'un chasseur d'Afrique, revu et corrigé pour la circonstance. Elle sourit. Ah oui, mais ça va très bien. Puis après avoir songé quelques instants, j'y pense, cette suite que tu devais faire alors et que tu as laissée en route, nous pouvons nous y mettre à présent. Ça nous donnera une jolie série bien en situation. Il répondit en s'asseyant devant son potage. Parfaitement. Rien ne s'y oppose plus maintenant que ce cocu de forestier est trépassé. » Elle répliqua vivement, d'un ton sec, blessé. « Cette plaisanterie est plus que déplacée. Et je te prie d'y mettre un terme. Voilà trop longtemps qu'elle dure. » Il allait riposter avec ironie. On lui apporta une dépêche contenant cette seule phrase sans signature. « J'avais perdu la tête. Pardonnez-moi et venez demain, 4 heures, au parc Monceau. » Il comprit. Et, le cœur tout à coup plein de joie, il dit à sa femme en glissant le papier bleu dans sa poche « Je ne le ferai plus, ma chérie. C'est bête. Je le reconnais. » Et il recommença à dîner. Tout en mangeant, il se répétait ces quelques mots « J'avais perdu la tête. Pardonnez-moi et venez demain 4 heures au parc Monceau. » Donc elle cédait. Cela voulait dire « Je me rends, je suis à vous, où vous voudrez, quand vous voudrez. » Il se mit à rire. Madeleine demanda « Qu'est-ce que tu as ?»«
Pas grand-chose. Je pense à un curé que j'ai rencontré tantôt et qui avait une bonne binette. »
Duroy arriva juste à l'heure au rendez-vous du lendemain. Sur tous les bancs du parc étaient assis des bourgeois accablés par la chaleur et des bonnes nonchalantes qui semblaient rêver pendant que les enfants se roulaient dans le sable des chemins. Il trouva Madame Walter dans la petite ruine antique où coule une source. Elle faisait le tour du cirque étroit de colonnettes d'un air inquiet et malheureux. Aussitôt qu'il l'eut saluée, « Comme il y a du monde dans ce jardin !» dit-elle. Il saisit l'occasion. « Oui, c'est vrai. Voulez-vous venir autre part ?»« Mais où ? N'importe où, dans une voiture, par exemple. Vous baisserez le store de votre côté et vous serez bien à l'abri. »«
Oui, j'aime mieux ça. Et si je meurs de peur ?»«
Eh bien, vous allez me retrouver dans 5 minutes à la porte qui donne sur le boulevard extérieur. J'y arriverai avec un fiacre. » Et il partit en courant. Dès qu'elle l'eut rejoint et qu'elle eut bien voilé la vitre de son côté, elle demanda
« Où avez-vous dit au cocher de nous conduire ?»
Georges répondit « Ne vous occupez de rien, il est au courant. » Il avait donné à l'homme l'adresse de son appartement de la rue de Constantinople. Elle reprit
« Vous ne vous figurez pas comme je souffre à cause de vous, comme je suis tourmentée et torturée. Hier, j'ai été dure dans l'église. Mais je voulais vous fuir à tout prix. J'ai tellement peur de me trouver seule avec vous. M'avez-vous pardonné ?»
Il lui serra les mains.
« Oui, oui, qu'est-ce que je ne vous pardonnerai pas, vous aimant comme je vous aime ?»
Elle le regardait d'un air suppliant.
« Écoutez, il faut me promettre de me respecter, de ne pas, autrement je ne pourrai plus vous revoir. »
Il ne répondit point d'abord. Il avait sous la moustache ce sourire fin qui troublait les femmes. Il finit par murmurer
« Je suis votre esclave. »
Alors elle se mit à lui raconter comment elle s'était aperçue qu'elle l'aimait, en apprenant qu'il allait épouser Madeleine Forestier. Elle donnait des détails, de petits détails de dates et de choses intimes. Soudain elle se tut. La voiture venait de s'arrêter. Duroy ouvrit la portière.
« Où sommes-nous ? »
dit-elle. Il répondit « Descendez et entrez dans cette maison, nous y serons plus tranquilles. »
« Mais où sommes-nous ? »
« Chez moi. C'est mon appartement de garçon que j'ai repris pour quelques jours pour avoir un coin où nous puissions nous voir. » Elle s'était cramponnée au capiton du fiacre, épouvantée à l'idée de ce tête-à-tête, et elle balbutiait
« Non, non, je ne veux pas, je ne veux pas !»
Il prononça d'une voix énergique « Je vous jure de vous respecter. Venez, vous voyez bien qu'on nous regarde. » Qu'on va se rassembler autour de nous, dépêchez-vous, dépêchez-vous, descendez !» Et il répéta « Je vous jure de vous respecter !» Un marchand de vin sur sa porte les regardait d'un air curieux. Elle fut saisie de terreur et s'élança dans la maison. Elle allait monter l'escalier, il la retint par le bras. « C'est ici, au rez-de-chaussée !» Et il la poussa dans son logis. Dès qu'il lui refermait la porte, il la saisit comme une proie. Elle se débattait, luttait, bégayait.
« Ah, mon Dieu ! Ah, ah, mon Dieu !»
Il lui baisait le cou, les yeux, les lèvres, avec emportement, sans qu'elle pût éviter ses caresses furieuses. Et tout en le repoussant, tout en fuyant sa bouche, elle lui rendait, malgré elle, ses baisers. Tout d'un coup, elle cessa de se débattre, et vaincue, résignée, se laissa dévêtir par lui. Il enlevait, une à une, adroitement et vite, toutes les parties de son costume, avec des doigts légers de femme de chambre. Elle lui avait arraché des mains son corsage, pour se cacher la figure dedans, et elle demeurait debout, toute blanche, au milieu de ses robes, abattues à ses pieds. Et lui laissait ses bottines, et l'emporta dans ses bras vers le lit. Alors, elle lui murmura à l'oreille, d'une voix brisée,
« je vous jure que je n'ai jamais eu d'amant. »
Comme une jeune fille aurait dit, « Je vous jure que je suis vierge. » Et il pensait, voilà ce qui m'est bien égal, par exemple.